Bonsoir à tous et bienvenue dans le Paris Central Show. Aujourd'hui, je me retrouve avec BR.
Yo yo yo,
Comment tu
comment
vas?
ça va Barry?
Ça va, ça va. Du coup, on se retrouve tous ensemble pour parler du match, débriefer le match du TFC contre le PSG. T'en as pensé quoi du match? T'es top, t'es flop? On va commencer par les tops et les flops. Il y a Basto et
Ouais.
Drias qui vont venir en cours de route. Donc du
Ok.
coup, qu'as-tu pensé du match, tes impressions, tes tops, tes flops, t'en as pensé quoi?
Bon match du PSG, mieux que face à Monaco, forcément, moins d'adversité aussi. Grosse entame de match. Le gardien adverse Toulouse, Maxime Dupé, t'es obligé de le mettre en top déjà. L'ancien gardien nantais, il a fait un très beau match. Je crois que les commentateurs, ils disent en fin de match que c'était un record d'arrêt, le cumulé entre Donnarumma et Maxime Dupé, c'était un record d'arrêt sur les 10 dernières années de Ligue 1. Et du coup, ouais, bah, 3-0, ça aurait pu être bien plus. Mais de notre côté, Donnarumma a fait un match pas trop dégueu. Bah, je pense qu'on en parlera de toute façon. Mais du coup, en top, Maxime Dupé côté toulousain. Moi, côté PSG, j'ai beaucoup aimé la prestation de Vitinha. Très disponible, grosse activité au milieu de terrain. Donc voilà, Vitinha, depuis qu'il est arrivé, il fait le taf. Ça fait plaisir d'avoir des milieux de terrain qui ont des pieds. Ça nous change de Wijnaldum et toute la clique. Yo les gars!
Salut.
Attendez, je vais changer la mise en page pour qu'on nous
Ouais.
voit tous, parce que sinon je vais rien
Ah,
comprendre.
parfait.
Voilà.
Ouais, top. Quel talent.
Bonjour à tous. Du coup, bravo, félicitations pour le retard, les gars.
On a
Donc,
plus rien.
j'avais demandé à BR quels étaient vos tops et vos flops et les impressions du match. BR, t'avais fini ou tu veux rajouter autre chose?
Ouais, juste pour finir, Neymar, qui, comme son début de saison est très bon, là, il a continué. Face à Monaco, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais là, j'ai beaucoup aimé, surtout le but. Très sympa la combinaison Messi, Mbappé, Neymar. Enfin, plutôt Mbappé, Messi, Neymar. Et ça rappelle la grande époque de la MSN avec Suarez quand ça combinait les trois devant. Donc j'ai beaucoup aimé le but et Neymar toujours une grosse activité, beaucoup de repli défensif, très bonne mentalité même quand il est sorti, il a pas souri forcément mais il a pas râlé. Donc moi j'aime beaucoup le début de saison de Neymar.
Okay. Plutôt David, plutôt d'accord avec toi. Igor et Grishka, qu'avez-vous pensé du match? Avant de passer sur les tops et les flops, quelle est votre impression générale? Quels sont pour vous les joueurs qui ressortent, les choses que vous avez aimées dans ce match-là?
Tu dis top et flop, les joueurs qui ressortent positivement, on rentre pas top flop ou on dit juste.
Alors, top flop, on rentrera après, du coup, quels sont
Ouais.
vos tops et vos flops des deux équipes? Mais là, vraiment,
Le
le
match,
bilan
le match.
général du match.
J'ai pas trouvé que c'était un match très passionnant, très emballant. On a eu beaucoup de mal à rentrer, notamment dans ces 25 premières minutes où on a vu dans les transitions défensives, c'était très compliqué. On a eu aussi beaucoup de mal à orienter côté. On est rentré dans une espèce de stéréotype, surtout dans les premières minutes avec Neymar, Messi, Mbappé qui cherchaient le dribble personnel ou avec un jeu qui était essentiellement axial, où on n'orientait pas ni sur Mukele, bon, c'était son premier match, donc il n'est peut-être pas encore trouvé par ses partenaires, ni sur Nuno. Après, c'est un match de milieu de semaine. Ce n'est pas toujours les matchs où on attend le plus. On va dire qu'on a fait un match de devoir, mais ce n'était pas un match très passionnant. Et ensuite, à 2-0, le PSG gère tranquillement. Le match est plus ou moins fini à 2-0. On sait qu'on va pas avoir un emballement derrière. Il y a un coaching en cours de match de Galtier qui est assez intelligent. Une gestion des temps de jeu, etc. etc. Donc voilà, c'est un match qui, à l'arrivée, est satisfaisant, on va dire, au niveau du score et de la maîtrise, plus ou moins. Mais qui n'était pas non plus très emballant.
Bah, pour moi, Igor, Igor a dit l'essentiel. Je rajouterais juste qu'il y a eu énormément de pertes de balles en première mi-temps. Alors après, il y a eu des mouvements qui étaient intéressants, mais comme le disait Igor, les mouvements avaient tendance à s'empaler dans l'axe. On écartait sur les ailes beaucoup trop tard, très souvent quand on était aux 20 mètres, et les mouvements étaient surtout axiaux. Ça donnait en fait trop de facilité à Toulouse pour défendre. Après, c'est un match comme le disait Igor. Encore
On
une
peut le voir,
fois,
Bastova, comme un Basto
j'ai
verbe.
du mal. J'ai du mal. Donc, comme le disait Basto, ça reste un match de demi de semaine contre une équipe qui est très sympathique, un peu naïve, mais très sympathique avec beaucoup de bonnes idées. Même si en deuxième mi-temps, ils font plus grand-chose. Et il n'y a pas des masses d'enseignements à en tirer, je pense.
En plus, d'ailleurs, en parlant de Toulouse, je vous conseille, j'entends un bruit derrière, je ne sais pas vous, mais j'entends un bruit, quelque chose qui gratte. Je ne sais pas qui s'est mis à gratter.
Ouais, moi aussi.
Du coup, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, comme on parle de Toulouse, petit aparté, je vous conseille de voir un peu les matchs de Toulouse et de regarder un peu leur attaquant, qui je pense qu'a beaucoup de talent et qui fera les beaux jours de la Ligue 1 cette saison. Ce que j'ai pensé du match, bah, je suis un peu d'avis de ce que j'ai entendu des deux côtés, même des trois côtés, vu qu'on est trois. Un match, je vais pas dire plaisant, mais c'est vrai que on est rentré dans le match un peu tardivement. C'est-à-dire que il y a eu des bonnes choses, il y a eu des bonnes choses. C'est-à-dire que je trouve que Neymar est assez en jambes, même si je l'ai trouvé un peu, sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il pêchait pas mal dans le dernier geste, notamment dans l'avant-dernière passe et dans la dernière passe. Lionel Messi, pareil. On s'est retrouvé souvent en 8 plus 2. Ce dont on avait peur de se retrouver cette saison. Les milieux de terrain, étant donné qu'on leur demande de jouer très haut, bah, du coup, on était très exposés derrière. La défense a été souvent contrainte à l'exploit. Heureusement, on s'est retrouvé avec un bon Donnarumma aujourd'hui et des frappes, encore une fois, comme qu'on joue contre le LOSC, très peu dangereuses. Ensuite, j'ai noté qu'un Vitinha, l'apport de Vitinha, on le voit direct. C'est-à-dire que dès les premières secondes, tu sens tout de suite le mec qui tourne autour de Verratti. C'est clairement, tu vois, du très haut niveau. Et surtout, une chose que je me suis rendu compte, c'est que Verratti s'adapte à Vitinha. C'est-à-dire que Verratti, dans son jeu, même malgré qu'à certains moments, il m'a dérangé, ses touches de balle, ses bêtises habituelles qui me dérangent, c'est-à-dire les 3, 4, 5, 6 touches qui ralentissent le jeu, j'ai trouvé que dans la globalité, il tentait plutôt. Je vais pas dire la facilité, mais tenter plutôt de faire briller Vitinha plutôt que de se dire bah, je vais essayer de toucher le ballon, même si à certains moments j'ai trouvé ça un peu poussif. Le trio offensif, j'ai eu ce problème-là dont j'ai fait remonter sur Twitter, c'est que dans la dernière passe et dans l'avant-dernière passe, on avait du mal, il y avait beaucoup de déchets dans les passes, notamment Lionel Messi. Alors, ça a toujours été comme ça de son temps à Barcelone, etc. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que voilà, il y avait globalement certaines choses qui étaient dérangeantes. Mais dans l'ensemble, le match était assez cohérent et offensivement, même si on est tombé face à un très
Moi,
grand gardien, il faut le reconnaître.
j'ai trouvé que...
Malgré qu'aujourd'hui on est tombé sur un bon gardien, je trouve qu'offensivement, on a tenté des choses et qu'elles étaient assez intéressantes.
J'aimerais
Excusez-moi, je vais remettre mes lunettes, mais j'ai un peu mal aux yeux.
y a pas
Écoute.
j'aimerais revenir sur les milieux où je partage pas tout à fait votre enthousiasme. Enfin, moi, Vitinha, j'en suis un grand fan, mais je l'ai trouvé très discret ce soir, très discret dans ses intentions. On a retrouvé des choses qu'il fait bien, mais il les a fait trop avec parcimonie. Il a rarement fait progresser le jeu. Pour Marco Verratti, on a eu pas mal de pertes de balles. C'est quelque chose qui s'était déjà produit contre Monaco. Mais dans l'ensemble, mon problème avec le milieu, indépendamment des individualités, c'était la problématique. C'est cette tendance à se projeter tous les deux ensemble, qui, comme tu le disais, Barry, a exposé notre défense de manière drastique. Alors que pour moi, quand il y en a un qui se projette, bah, il y en a un qui doit rester un petit peu en backup, et voire un des offensifs qui redescend un chouïa pour se mettre au niveau de celui qui se projette. Mais se retrouver comme ça avec les deux devants nous a mis très souvent en difficulté. Je pense qu'il y avait des soucis d'adaptabilité tactique dans la manière avec laquelle ils ont joué. Et pour ce qui est des performances individuelles, je pense qu'ils sont intéressants. Je pense que Vitinha apporte beaucoup. Mais ce soir, c'était peut-être pas son meilleur match, en tout cas pour moi, la saison.
Je suis pas forcément d'accord avec ton analyse. Je pense que c'est clairement voulu. C'est-à-dire qu'on est sur un. Il a dû bugger. On est sur un système de jeu ultra offensif. Et donc, forcément, on sait que bah, quand tu es forcément très offensif, bah, défensivement, à un certain moment, tu vas pêcher. Toulouse a très bien joué, notamment dans la transition rapide, dans la projection, notamment dès qu'il récupérait le ballon. Vous voyez, dès qu'il voyait que Verratti, ou plutôt Vitinha, il est de retour. Dès qu'il voyait que Vitinha se projetait en avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous aviez toujours le milieu de terrain de Toulouse qui ressortait pour essayer de récupérer le ballon et donc justement se projeter en avant. Donc je pense qu'en fait, non, je pense que le système de jeu est voulu comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé sur un système où on veut avoir la domination du ballon, la domination. Je finis, Igor. On veut avoir la domination du ballon, la domination du terrain. Et donc, forcément. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ok.
Le Igor,
c'est
je ne m'en remets pas à chaque fois.
Igor. Ok. Non, on veut avoir la domination du ballon. Et je pense que la doctrine du Paris Saint-Germain, c'est derrière, on va être découvert, on va prendre des buts, je pense qu'ils le savent, mais qu'on va toujours mettre deux, voire trois buts de plus que vous. Je pense que c'est plutôt ça l'idée de base du Paris Saint-Germain. Parce que sinon, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de mettre autant de joueurs offensifs. Faudrait plutôt penser à mettre une pointe basse plutôt qu'une pointe haute et donc forcément retirer un joueur. Donc à partir du moment où tu laisses ces joueurs de cette façon-là, en sachant que tu mets Vitinha qui lui a l'envie de se projeter en avant, que tu as des pistons qui jouent très haut, je pense que c'est voulu et que derrière tu sais que tu vas prendre des vagues et des vagues et donc ils essaient de corriger le mieux possible au niveau de la défense.
C'est la mentalité bavaroise, ça. C'est comme le Bayern en Bundesliga, ils s'en foutent de prendre 2-3 buts tant qu'ils en mettent 5-6.
Ouais, mais
Mais pour
équilibre.
répondre, moi j'aime beaucoup Verratti
Ah,
quand il se met comme ça en quarterback un peu plus bas avec Vitinha qui vient faire les appels entre les lignes. Moi j'aime beaucoup, je les trouve très complémentaires. Le seul souci c'est l'apport, on va dire, athlétique des deux qui n'est pas suffisant si on tombe face à des gros au milieu de terrain. Mais moi je les trouve très complémentaires pour répondre aux doutes que vous aviez sur les milieux.
non, mais
Seb,
les doutes,
laisse-moi
c'est pas
répondre. De toute
athlétique,
façon,
je te laisse
on va être
répondre.
plus ou moins d'accord, Seb. Moi, j'ai toujours dit au moment où Vitinha a signé, les gens avaient peur que Verratti et Vitinha ne soient pas complémentaires. J'ai toujours contredit ça. Pour moi, Verratti et Vitinha peuvent être complémentaires puisque tu as justement Verratti en position plus basse et Vitinha qui va faire ce que ne fait pas Verratti et ce que n'a malheureusement jamais fait Verratti, c'est-à-dire proposer sans ballon dans l'interligne et aussi pouvoir continuer l'action une fois qu'il lâche la balle et en prenant l'espace vide. Maintenant, ce soir, j'ai eu des difficultés sur ce duo. Alors que je le défends, ce duo. Tu sais, mon pseudo Twitter, c'est nos Vitinha, nos parties maintenant. Donc, Vitinha, je suis fan. Ce soir, j'ai trouvé un peu moins bien dernièrement, notamment le duo Verratti-Vitinha, Seb en parlait, c'est pas parce que tu as une équipe qui vient jouer pour l'offensive que tu ne peux pas avoir des espèces de permutations entre les deux et de coulissements et d'intelligence entre les deux. Ce soir, il y a eu quelques mésententes, je pense notamment des fois qu'ils se sont cherchés un 1-2 dans la surface à un moment où il n'y avait pas de couverture derrière. C'est bien d'apporter le surnombre offensif, mais il ne faut pas non plus oublier l'équilibre, tu vois, on n'est pas non plus dans un déséquilibre total. Non, là, on n'est pas l'équipe qui va essayer de mettre, comme tu le dis, peut-être deux buts de plus que l'adversaire. Mais attention, attention quand même à ce genre de situation. Et tu disais que Verratti était en train de jouer en, je sais plus exactement, c'était par rapport à Vitinha qu'il était
Qui
en
était
train
en mode quarterback
de...
avec les longs
Ouais,
ballons,
en mode
etc.
quarterback, c'est-à-dire qu'il était plus dans l'optique de faire briller Vitinha plutôt que
Ça.
Vitinha à certains moments
Après,
d'être
j'ai
dérangeant
trouvé
à ralentir le jeu.
Vitinha que j'ai trouvé justement qui se, entre guillemets, se désintéressait de Verratti les derniers matchs, c'est-à-dire qu'il allait tout de suite, plutôt que s'appuyer sur Verratti, orienter côté très vite, aller proposer dans les intervalles, j'ai trouvé que Vitinha, lui, au contraire, s'appuyait trop sur Verratti. Tu vois, il y a eu beaucoup de phases où Vitinha avait le ballon et allait remettre en retrait tout de suite sur Verratti en une touche. Et on a eu quand même une phase difficile dans l'orientation côté. T'as une très belle tête, Barry, avec ses lunettes, c'est très stressant.
Non,
Bon, voilà,
mais je vous jure, la lumière elle me tue les yeux. J'ai oublié de mettre des lunettes.
j'ai pas eu ce que j'adorais chez Vitinha, c'est-à-dire cette orientation, elle, très rapide. Ce soir, j'ai eu l'impression qu'il s'appuyait trop axialement et notamment trop sur Verratti en retrait. Mais voilà, il y a eu des bonnes séquences de Vitinha, notamment en fin de première mi-temps et notamment en milieu de seconde mi-temps. Mais ce n'est pas son meilleur match, en tout cas, cette saison.
Et je voulais juste réagir enfin, loin de moi l'idée de vouloir mettre un grand bourrin devant. C'est tout est une question en fait de permutation et d'équilibre. Et voir, enfin, tout à l'heure tu parlais du Bayern Munich. Bayern Munich fait le parti du déséquilibre, mais c'est un parti de déséquilibre avec les permutations qui vont permettre de créer, de tout le temps avoir une situation de surnombre, c'est-à-dire que tu peux être en danger de temps en temps. Là, on était face à Toulouse. On s'est quand même beaucoup enfermé dans l'axe au niveau des offensifs. Et on a quand même pris, en première mi-temps, hein, en deuxième mi-temps, ça s'est calmé, mais on a quand même pris énormément de vagues. En termes de nombre de tentatives de frappe et nombre de frappes cadrées, je crois que la stat, elle a été parue à la 30e. C'était 4 et 3 de chaque côté. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait à pas mal tricoter dans la surface, à trop vouloir aller dans l'axe. Pas énormément de frappes. Ça s'est inversé en deuxième mi-temps. Et de l'autre côté, on prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de frappes en retour. Enfin, en tout cas, le même nombre de frappes en retour. Donc, on n'était pas vraiment dans l'optique de marquer deux buts de plus. On n'était pas vraiment dans ce qu'on voit avec le Bayern. On n'avait pas la même possession.
Non,
Et l'équilibre.
Les 30 premières,
et
Barry,
je, et, je, et je finis juste, je finis juste. L'équilibre est super important. Et par exemple, tu vois, je suis pas en train de dire d'avoir un mec qui est costaud et qui reste en 6 derrière. C'est juste que quand on a un des deux qui se projette, et ben, à ce moment-là, d'en avoir un qui reste un tout petit peu en backup. Parce que la situation que décrivait Basto tout à l'heure, où tu as tes deux milieux dans un 3-4-1-2, tes deux milieux qui sont aux abords de la surface en train de faire des 1-2, et d'ailleurs en train de jouer au billard, enfin, jamais ça va rentrer, parce que, enfin, à moins d'un exploit personnel, parce que tu as l'équipe adverse qui est regroupée derrière. bah, elle a perdu balle, ça a donné ça, ça donne une occasion qui est directe. Tu mets des attaquants qui sont un petit peu plus performants en face, ça donne un but direct. Bah, je te défends l'équipe, bah, la brute derrière, hein, c'est pas ce que je défends du tout.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, comme je te dis, c'est pas parce que de base tu penses que tu vas mettre 3 buts, voire 4 buts de plus que l'adversaire, que tu vas forcément les mettre. À un moment, on a beaucoup pêché parce que déjà il y a eu un grand gardien, déjà il faut le reconnaître. En face, on a eu un très très bon gardien de Toulouse, Nicolas Dupé, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Nicolas Dupé qui fait un très bon match aujourd'hui. Maxime Dupé, pardon, excusez-moi, parce que j'ai dû me confondre avec le joueur. Mais Maxime Dupé, désolé, qui fait un très bon match aussi. Donc non, je pense que clairement, le Paris Saint-Germain est passé dans une autre optique, de passer dans une optique de ultra-offensivité. Après, je pense que c'est dû au fait que tu as trois monstres et que tu te dis, ouais, lequel je vais mettre sur le banc. Bah, tu n'arrives pas à savoir lequel, donc je mets les trois. Et donc, dans ces cas-là, le déséquilibre est voulu. Et donc, derrière, tu sais que tu vas prendre des vagues. Aujourd'hui, on a eu de la chance que les vagues étaient assez contenues. Je pense que contre un City où des vagues, ça va être Mahrez, des vagues, ça va être Foden, des vagues, ça va être Haaland, ça va être plus compliqué. Et donc là, ça va demander beaucoup plus de compensation au milieu de terrain. Là, je prends un exemple du gros d'Europe. Mais on peut prendre une équipe, par exemple, Monaco. Monaco nous a posé des problèmes de cette manière-là. Le LOSC aussi nous a posé des problèmes de cette manière-là. On a réussi à les contenir actuellement, à voir face à une grosse équipe. Après, je vais pas non plus monopoliser le sujet sur ce débat tactique. Je pense qu'on va plutôt passer au top et les flops. Du coup, on commence par l'heure des caméras, comme d'hab. Igor, donne-moi. Allez, c'est quoi? Je vais compliquer la tâche parce qu'à chaque fois, on en met 10, 20. Deux tops et deux flops côté parisien.
Alors, on va mettre un top qui est Léo Messi. Qui n'a pas tout réussi, notamment en premier temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué la tâche, comme Neymar sur les premières minutes, à vouloir être trop un peu dans du Harlem Globetrotter football. Mais à l'arrivée, quand il s'est mis à simplifier le jeu, on a vu qu'il a créé pas mal d'occasions, notamment les deux buts. Hein. Je crois que ces deux passes sont assez
magiques. Les deux passes décisives de Messi, ouais.
Ouais. Puis c'est pas des petites passes D, quoi. C'est des vraies passes D. On a vu aussi une bonne qualité de frappe, notamment cette frappe arrêtée que Dupé arrête, le coup franc qui était pas mal tiré. Donc voilà, je pense que Messi a fait un bon match. Un deuxième top, ce sera un semi-top, c'est plus quelque chose d'encouragement. C'est Mukiele. Ce serait pas quelqu'un à qui je mets 7 sur 10, tu vois, parce qu'il n'a pas été forcément servi, il découvrait ses coéquipiers. Mais j'ai trouvé très bon dans l'intention. Tu vois, Renato contre Monaco qui s'était un peu caché ou qui avait voulu jouer trop propre. Mukiele, lui, où il a pêché ce soir, c'est peut-être par justement vouloir trop se montrer. Parfois, il se fait passer défensivement un peu bêtement parce qu'il veut être trop « Ah, j'arrive, je cours, je veux me montrer ». Mais voilà, je l'ai trouvé assez intéressant, notamment balle au pied où il libère vite la balle quand il a pu être servi. Donc voilà, c'est plus un top d'encouragement qu'un vrai top. Je ne l'ai pas trouvé qu'il a fait un match extraordinaire, mais pour une première, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais.
Moi, je l'ai trouvé un peu trop, Mukiele. Quand on avait la balle, Mukiele, il était un peu trop, j'avais l'impression.
Moi, je l'ai trouvé haut et lent, mais par contre, je l'ai trouvé quand même pour une première assez intéressant. Je suis d'accord avec toi.
C'est appréciable, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il en faisait trop. Et même, il y a un moment, il finit sur. Il perd ses reins, en fait. Il finit sur le sol. Voilà. Mais ce que met en lumière Basto, et c'est vrai, c'est, tu vois, tu préfères avoir un mec qui fait une première entrée en faisant un petit peu trop. Après, tu vas pouvoir.
Oui.
Calme-toi à mesure. Alors qu'un mec qui fait une première entrée en faisant pas assez, bah, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'envisager le futur. Et après, pour Mukiele, les choix tactiques qu'il faisait étaient intéressants. C'est-à-dire qu'il y avait cette fougue, effectivement, où des fois, il en faisait trop et il se dépassait. Mais les choix, c'est-à-dire qu'il y avait des fois où il se recentrait, des fois où il prenait son aile. Malheureusement, ça, c'est un truc qui est récurrent à Paris. Et je crois que c'est nos trois offensifs, en fait, ils préfèrent l'axe gauche. Ça arrive avec Hakimi, ça arrive avec Mukiele. Le côté droit n'est pas assez servi. C'est récurrent, ça fait je sais pas combien de temps que ça dure, ça n'arrête pas. Mais en tout cas, dans ses choix et dans ses intentions, moi j'ai trouvé comme Basto, Mukiele très bon. Après, le problème, c'est que c'est justement, il m'a pris l'étape, donc du coup, je vais prendre Neymar. Et la raison pour laquelle je vais prendre Neymar, c'est pas tellement pour son but, c'est parce qu'il m'a beaucoup inquiété le premier quart d'heure. On avait retrouvé le Neymar des mauvaises années et il a su simplifier son jeu, se mettre au service de l'équipe et je l'ai trouvé vraiment intéressant pour ça.
Au passage, Neymar bat encore un 16e match de suite décisif.
Au passage.
Il bat le record de Messi et Cristiano Ronaldo.
Et d'ailleurs il est à 7 buts en Ligue 1.
Ça, il passe D, ouais.
C'est quand même un très très gros début de saison. Et du coup, vous n'avez pas dit des flops, vos flops, du coup.
Si, j'en ai. Après, peut-être que Berdis veut faire ses tops, non? Peut-être qu'on finit sur les tops.
Ouais, moi je veux bien faire mes tops. Tout à l'heure, je commençais. Du coup, moi, justement, mon top, il complète un petit peu ce que vous avez dit. Moi, Vitinha, je l'ai trouvé intéressant tactiquement aussi, puisque justement, quand on avait la balle, Mukiele, je le trouvais trop haut et du coup caché derrière son défenseur. Et là où Vitinha était intéressant, ce qui se cachait pas forcément ou qui venait pas toujours dans l'axe, il aimait bien aller sur le côté droit de temps en temps et venir en fait dans le demi-espace entre du coup Ramos et Mukiele. Il y avait un espace où il venait s'intercaler côté droit et il écartait beaucoup. Et ça, je trouvais ça très intéressant de la part de Vitinha et c'est pas quelque chose où je l'attendais de base. Donc Vitinha, moi, j'ai beaucoup aimé. Je crois que je suis amoureux de ce joueur, donc je suis peut-être pas très objectif
Je
en
le suis
dehors de ça.
totalement aussi, hein.
Et tout à l'heure, je disais bah, forcément côté toulousain, Maxime Dupé, je suis obligé de le mettre en top. Mais moi, Neymar, j'ai beaucoup aimé, puisque comme tu l'as dit, au début, il m'a fait peur. Et après, directement, il s'est remis dans son match. Là où avant, on l'aurait peut-être vu péter un petit peu un câble. Il a pris deux, trois tacles un peu sévères où il s'est pas trop énervé. Moi, après, Neymar, vous le voyez derrière, c'est un joueur que j'admire. Mais quand il est comme ça, quand il joue simple et quand on sent qu'il est là pour le collectif, après, je suis pas dupe, je pense que l'objectif Coupe du Monde, il est dans sa tête aussi. Ben, c'est un Neymar que j'aime voir, et même quand il sort et qu'il fait pas la gueule comme ça, je sens que là cette année c'est un vrai leader de l'équipe et il m'a encore plu, notamment comme je l'ai dit tout à l'heure avec son but très très bon où on sait que dans la finition ces dernières années il avait un petit peu de défauts. Là il a été clinique, donc j'ai beaucoup aimé le match de Neymar.
Après, on discutera d'Mbappé, mais parler de l'égoïsme de Mbappé, les gars, quand vous prenez un joueur d'un tel ego, et en plus, c'est un neuf, les gars, on va pas s'inventer
Ah,
une vie,
ils
ça
sont
va
tous
avec.
égoïstes, hein.
Ça va avec, c'est comme ça. Vous regardez, écoutez les interviews de Djibril Cissé, qui n'est pas forcément le meilleur neuf de la décennie. Écoutez les interviews de Anelka, il vous le dira, c'est comme ça. Ils ont faim, ils ont la dalle du but, et c'est comme ça. Alors, moi, mes tops. En top, je mettrais le premier top, je mettrais. Bah, j'ai bien aimé Messi, mais je mettrais Neymar. Je trouve que je mettrais Neymar parce que je trouve que lorsqu'il a simplifié son jeu à partir de peut-être 20e, 25e minute, bah, encore une fois, on voit un joueur qui est rapide, qui se projette facilement en avant, qui est dans la surface de réparation. Je trouve qu'il a bien assimilé son travail qui est de bah, je suis numéro 10, mais je me projette en avant là où Messi ne va pas trop le faire dans la surface de réparation. Et je trouve qu'il a plutôt bien assimilé ça. Et c'était très intéressant de voir redescendre et puis de créer le jeu un peu plus bas et puis après de se retrouver dans la surface de réparation pour essayer de finir l'action. Je trouve quand même qu'il a le coffre et j'ai beaucoup aimé ça. Et puis en plus, 7e but, mention spéciale, faut reconnaître qu'il fait un énorme début de saison. Et le deuxième, bah, moi je vais vous dire un joueur, je vais dire Danilo. Je vais dire Danilo parce
Ouais.
que j'ai trouvé Danilo, son intelligence tactique, son intelligence de placement. Alors oui, comme je l'ai dit, en plus je l'ai écrit dans mon descriptif. Du coup, Danilo, on connaît ses carences, sa vitesse et son jeu balle au pied. Et donc justement, lui, il corrige tout ça avec son placement et son intelligence de jeu. C'est-à-dire que et son intelligence de jeu sans ballon. Tu as des joueurs comme Verratti qui ont une intelligence de jeu avec le ballon. Et lui, il est souvent bien placé. Il y a certaines phases de jeu où il m'a dérangé, lorsque notamment il sort et il tombe face à un joueur de Toulouse qui est beaucoup plus agressif et qui récupère le ballon. Et donc derrière, ça fait un boulevard pour lui. Mais dans la globalité, j'ai
Ouais.
trouvé que Danilo a fait un match très cohérent. Il a été très physique sur le terrain et il a été rarement pris. Alors après, il y a eu des phases, comme je l'ai dit, où c'était compliqué, où Nuno Mendes était en haut et donc il a dû combler certaines choses et qui sont beaucoup plus compliquées pour lui. Mais voilà, il avait fait une bonne entrée en axe droit. Là, il fait un match complètement titulaire en axe gauche et dans les deux axes, bah, il a donné quelque chose de, il a rendu une copie assez intéressante.
J'attaque avec les flops là du coup.
Bah du coup, non, mais je vois que tu n'étais pas d'accord avec Danilo, donc je pense qu'on peut
Mais
mettre au flop.
non, on va en venir. Mais je ne suis pas d'accord et d'accord. En fait, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que Danilo fait un très très bon match. Mais c'est juste que. Mais d'ailleurs, bah, je vais attaquer avec les flops.
La malheur.
Je vais attaquer avec les flops. C'est premier flop, en fait, ça va être Danilo et Ramos. Et c'est pas qu'ils font un mauvais match, les deux. C'est juste que tu peux pas avoir dans une défense à trois les deux centraux les deux centraux qui ne sont pas libéraux qui sont aussi lents. C'est le nombre de fois qu'on s'est fait prendre, c'est phénoménal. Et c'est pas Ramos, c'est pour une autre raison, c'est son âge. Danilo, c'est intrinsèque, c'est-à-dire que c'est la lenteur du joueur. Moi, je l'ai trouvé avec le ballon très intéressant, notamment en début de première mi-temps. Comme tu le dis, c'est un joueur, c'est un des rares joueurs qui sait défendre en zone au Paris Saint-Germain. Il a cette intelligence tactique, cette profusion, mais sa lenteur, elle est rédhibitoire par rapport au poste auquel il jouait. Et pareil, Ramos, la question qu'on mérite d'être posée, parce que là, on n'était pas face à des attaquants très rapides. Tu mets un Coman face à Ramos, je ne présage pas de ce qui peut se passer. Et le deuxième...
Alors, tu te laisses, t'inquiète, je te laisse finir, t'inquiète, je rebondis là après, t'inquiète.
Et deuxième, la première fois, bah, c'est les deux centraux.
Ouais, c'est leur lenteur.
Et le deuxième flop, du coup, moi, je vais choisir Vitinha en flop. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur que j'adore et qui, d'une manière générale, les 20 premières minutes à Lille, pareil, il m'avait. J'entends tout ce que tu dis, l'intelligence tactique du joueur, et ça tu la vois tout le temps. Et tu les voyais notamment dans les 20 premières minutes à Lille. Mais là où il est vraiment intéressant, c'est ensuite, c'est tout à coup sa capacité à faire des vraies passes vers l'avant, à faire des vraies différences dans ses passes, à faire des projections, à écarter sur les ailes. Combien de fois il a écarté sur les ailes ce soir? Ce soir, on écartait sur les ailes que dans les 15 mètres. À aucun moment, on essayait d'écarter sur les ailes dans les 30 mètres pour vraiment exploiter les ailes. Et ça, Vitinha, par rapport au standard qu'il a, moi, m'a énormément déçu ce soir. Alors après, c'est début de match, c'est match milieu de semaine, on va pas tirer de conclusion et tout ça, j'en suis pas du tout là. C'est juste que sa performance, c'est un joueur sur lequel je compte énormément, qui pour moi, d'une certaine manière, est presque devenu essentiel dans ce système. Et là, il n'a pas été à la hauteur de mes attentes, notamment dans sa participation avec ballon.
Ça peut s'entendre. Igor, du coup ?
On me reproche souvent de ne pas être objectif avec les joueurs que j'aime, donc je vais mettre quelqu'un une nouvelle fois. Comme j'ai pu mettre Mukiele en top par défaut, je vais mettre un flop par défaut. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais j'ai trouvé en dessous de ce qu'il peut faire dernièrement depuis de longues années. C'est un joueur que j'adore, j'étais le premier à monter dans le train, c'est Nuno Mendes, que j'ai trouvé un peu en dessous aujourd'hui, un peu brouillon. Même s'il a été actif.
Physiquement, il était un peu.
C'est pas du tout un mauvais flop en disant il a été nul.
Il a fait un bon match, hein. Il a fait un bon match dans l'ensemble, mais c'est vrai.
Voilà, moyen. Ouais, voilà, moyen. Par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps, c'était en dessous, mais c'est pas du tout. C'est pas pour lui mettre une fessée. Hein. J'adore ce joueur. Il a juste été un peu en dessous ce soir, donc je pense qu'il aurait pas forcément été cité par ailleurs. Donc je voulais citer Nuno Mendes. Un autre flop. Alors ça va rejoindre un peu ce qu'a dit Dries. Pour moi, c'est les trois décès, mais pas individuellement. Individuellement, ils ont fait un bon match, mais c'est comment la compréhension en fait du trio, le coulissement, comment anticiper quand quelqu'un est plus haut, etc. Ça, on voit des difficultés depuis le début de l'année. On en a eu ce soir dans les 30 premières minutes beaucoup des situations, notamment je pense à une passe de Van der Boomen, à un moment où les trois, on ne sait pas qui marque et il y a une frappe, même s'il est hors jeu, le Toulousain se retrouve tout seul. C'est des choses qui ne passeront pas en Ligue des Champions. C'est des choses qui sont assez récurrentes. Pour le moment, ça n'a pas trop de préjudice parce que ce n'est pas des attaquants forcément de haut niveau en face. On avait vu les 25 premières minutes contre Lille, même si c'était rattrapé par des positionnements individuels, on va dire. Mais collectivement, cette charnière ne me rassure pas forcément. On sait qu'il faut du temps hein, quand on a une charnière à 3. On sait que ce n'est pas du tout le système le plus simple pour défendre. Mais voilà, j'ai un peu peur pour le moment. Heureusement, on va dire, on a une poule de Ligue des Champions qui paraît normalement assez faisable, mais voilà, c'est mes petites craintes. Mais encore une fois, je ne critique pas ni Martin ni Danilo ni Ramos ce soir. Je parle vraiment de l'entente des trois ensemble.
Du coup, okay. BR.
Ouais, bah moi je comptais mettre en semi-flop aussi Nuno Mendes qui est monstrueux à chaque match. Aujourd'hui, qui avait un peu plus de mal physiquement. Galtier, pour moi, aurait dû le sortir plus tôt. Je crois que je vérifie, le sort à la 83e
minute.
Pour moi, il aurait dû le sortir plus vers la 70e.
Tu vois mon avis, excuse-moi de te couper, mais je pense qu'il aurait même pas dû le faire jouer. Regardez l'entrée de Bernat. Je pense qu'il aurait dû le faire souffler. Il aurait dû le faire souffler. Et vu l'entrée de Bernat, je pense que Bernat est quand même en jambes. Faire jouer Bernat et à la rigueur, à la 60e, 70e minute, tu fais rentrer Vitinha.
Je pense que vu que Kimpembe est pas là et donc du coup Danilo se retrouve là et qu'il veut faire souffler Hakimi, il voulait pas non plus changer toute la défense. Ça m'étonnerait pas que contenant justement Bernat soit titulaire et pas Nuno et qu'Hakimi retrouve sa place et Kimpembe aussi.
Ok.
Je pense que Bernat jouera contre Nantes aussi. Pour moi, il y a deux semi-flops du coup en dehors de Nuno Mendes. Pour moi, il n'y a pas vraiment de flop ce soir, mais j'ai pas beaucoup aimé la retraite de Renato Sanchez. Encore une fois, il m'a pas encore convaincu. Il est toujours en phase d'adaptation, mais j'attendais encore un petit peu mieux, surtout face à Toulouse. Et au dernier match, il n'a pas été non plus incroyable. Là, j'attendais un peu plus de percutant. Il a loupé 2-3 passes assez faciles, même si physiquement, il a été plutôt bon. Et un dernier semi-flop, là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont pas être d'accord, mais c'est Kylian Mbappé qui a raté pas mal de choses ce soir. même si c'est dur hein, de le mettre en flop parce qu'il marque un but et voilà, on gagne 3-0, il met un but. Mais voilà, Mbappé, il a tellement été bon la saison dernière que j'aimerais revoir le Mbappé de la saison dernière. Après, peut-être que c'est à cause de Paul Pogba. Mais en tout cas, j'aimerais qu'au prochain match, Mbappé, il nous fasse taire et qu'il plante un doublé, un triplé et que surtout techniquement, dans les combinaisons, ils soient un petit peu plus justes. Je trouve qu'il y a trop de passes faciles qu'il rate en fait.
Du coup, les gars, avant que je balance mes flops, on est 426 dans le live. Donc, je pense qu'on peut atteindre les deux, allez, un bon objectif. 250 likes, s'il vous plaît. Ça nous aide au référencement de la chaîne. Et puis, ça nous permet de nous développer. Les likes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Du coup, comme ça, vous avez les nouveaux lives dès qu'ils sortent, les nouvelles vidéos, les nouvelles actus du Paris Saint-Germain et de notre actu Paris Central. Et comme je vous l'ai dit, ça nous aide à nous développer. Moi, mes deux flops. Flop, c'est un grand mot. Je vais dire Kylian Mbappé, non pas parce que j'ai eu beaucoup dans les commentaires, c'est un égoïste. Je vais encore me rappeler, les gars. Et t'as 250 likes. Comment ça, on est déjà à 250 likes? Vous montez à 300, je veux 300 likes alors. Si on a 250, je veux 300. J'en veux 300. Désolé, j'en veux 300. Merci, les gars. Merci, ça fait plaisir, les gars. 250 likes, sans vous demander, vous êtes des tueurs. Du coup, je vais mettre Kylian Mbappé, non pas en flop. Et c'est non pas pour tout ce que je vois dans les commentaires depuis tout à l'heure, son égoïste. Les gars, comme je vous dis, quand vous prenez un joueur avec un tel ego, quand vous prenez un attaquant, il voudra toujours marquer. Alors, quand ça rentre, c'est magique. Quand ça ne rentre pas, c'est de l'égoïsme. Non, c'est le travail d'un attaquant. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'en face, vous avez un très grand gardien. Alors, dans ces cas-là, tonton, ne me dis pas 250 likes, on y est. Bref. Parlons un peu du football. Donc oui, je le mettrai pas en flop, mais c'est vrai que voilà, moi c'est pas dans son égoïsme que je vais dire que c'est un flop. C'est plutôt dans son envie de toujours décrocher, de toujours vouloir se retrouver dans le cœur du jeu. Alors à certains moments c'est très intéressant lorsqu'il fait ses 1-2 avec Neymar, qu'on les connaît. Mais Neymar et Messi, on se retrouve dans la même zone du terrain et veulent constamment jouer ensemble. Et donc lorsque Kylian Mbappé dézone, il veut jouer avec ces trois-là. Et donc ça fait une sorte de triplette. Ça oblige les trois à vouloir se trouver. Et tu trouves toujours une passe qui est interceptée. Et là, ça me dérange. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure avec Lionel Messi, dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, tu as toujours un pied qui traîne. Mais c'est juste parce qu'en fait, tu redoubles des passes. Et donc au bout d'un moment, les mecs, ils interceptent.
Barry, il y a... On est à 108 lacs, donc on te dit on est à 108 lacs, tu vois pas avec tes lunettes.
108.
Ah, mais parce que je vois pas les likes sur la vidéo, donc s'il vous plaît les gars, 250 ça fait plaisir. Et si on peut atteindre les 250, ça nous ferait énormément plaisir. Ensuite le deuxième, c'est pas vraiment un flop parce que le gars il vient d'arriver, mais non, moi je trouve que Mukiele quand même il a fait un bon match, mais c'est vrai que des fois il était un peu trop haut. Je suis d'accord avec BR, il est un peu trop haut, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais je le mettrai pas en flop. Je mets juste le fait qu'il est un peu trop haut, et donc voilà, c'est un nouveau club, etc.
Wow. Harry, regarde le chat.
Merci à Harry Hung pour ce but. Merci, 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 merci. Ça fait plaisir. Je sais pas c'est quelle monnaie, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc oui, et juste pour revenir sur le cas Nuno Mendes, moi je le mets pas en flop. Justement parce que je pense que c'est même pas une question de c'est juste une question physique, tu vois. Je sais pas c'est quoi le jingle, tonton. C'est juste une question physique. Je pense qu'il a enchaîné les matchs. Je pense qu'il était un peu plus fatigué qu'à l'accoutumée d'habitude. Donc voilà. Barry, le passé c'est pas le présent. Qu'est-ce qu'il me dit? Le passé c'est pas le présent. Évite de vivre dans le passé. La Champions League, son ego va vous flinguer. Mais de quoi tu me parles? Le passé? Qui je vais parler de passé? Ah, par rapport à Kylian Mbappé? Non, son ego. Son ego, il avait le même l'année dernière. Hein. Son ego, il avait le même l'année dernière. Pourtant, quand il te met son but à City, on est très content. Son ego, il avait le même lorsqu'on joue Barcelone. Et quand il te met un triplé, vous êtes très content. Son ego, il avait le même contre Bayern. Quand il te met un doublé, vous êtes très content. Voilà. Donc, en fait, l'ego, ça vous dérange que quand c'est négatif. C'est un attaquant. Il va pas marquer à chaque match. C'est comme ça, c'est le football. Arrêtons de vous inventer des vies. Cristiano Ronaldo, je me rappelle deux matchs, notamment, je vais vous sortir une double confrontation. Contre Wolfsburg, au premier match, il croque énormément. Il croque énormément, il se fait descendre dans la presse. Voilà, le Real va sortir à cause de Cristiano Ronaldo. Au match retour, il vous met un triplé et tout le monde se tait. Bah oui, c'est comme ça les grands joueurs, c'est le football. Lionel Messi, c'est pareil, tu vois. Donc les gars, juste apprenez à doser un peu. Oui, c'est vrai que son ego a été dérangeant sur certaines phases de jeu, mais c'est comme ça. Quand vous prenez un joueur, bah ça prend l'ego avec. Lorsque Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, bah, vous avez pris son ego avec et des fois cet ego nous a dérangé. C'est la même chose avec Kylian Mbappé.
Réagir vite fait sur les. Sur les
vas-y,
sur
tu
les...
peux, tu peux, tu peux, vas-y.
Eh ben, sur Mbappé, ça fait deux matchs où il est un peu en dedans. Mais le truc, en fait, qu'il faut quand même regarder, c'est que le mec, il est un peu en dedans. Il a, même quand il est un peu en dedans, il a souvent un but, une passe décisive ou une passe clé. Il a été sur peut-être pas sur les deux buts, mais en tout cas, au moins sur le deuxième but. Et, mais c'est reparti pour le.
Merci, merci, merci. Neymar, Ballon d'Or, excellent boulot. Ballon d'Or, on y est un peu tôt, mais on espère. Si on peut avoir un Ballon d'Or à Paris, on sera.
Ouais, et side note, Igor, on t'attend quand est-ce que tu.
Les gars, juste attendez, excusez-moi de vous couper. Les gars, pas d'insultes, parce qu'en vrai de vrai, même si vous n'êtes pas en tort, moi je bloque. C'est la dernière fois que je vois une insulte dans le live, sinon je bloque, les gars. En vrai de vrai. Vous n'avez pas pollué le live avec les insultes, les gars. On passe un bon moment, on a passé un bon match là, quand même. Donc s'il vous plaît, soyez un peu respectueux.
Non, mais ouais, Mbappé, ouais, voilà, ça fait. Mais même quand il est un peu en dedans, et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier sur Mbappé, c'est que la fin de la saison dernière, après le Real, l'équipe arrête quasiment de jouer. Et à lui tout seul, il nous ramène les points sur des matchs. Enfin, c'est un joueur qui a montré qu'il était devenu essentiel au Paris Saint-Germain. Là, il a deux matchs où il n'est pas très en forme. Il a eu un début de saison compliqué où il tirait la tête. On ne sait toujours pas pourquoi. Encore une fois, peut-être que le marabout de Paul était dans les parages. Mais l'un dans l'autre, laissons-lui le temps. Il va revenir et il n'y a pas de souci. Je voulais juste dire ça.
Je peux faire deux petites remarques?
Non.
C'est bon, les gars, il est bloqué.
Voilà. Juste par rapport à beaucoup de commentaires que j'ai pu voir passer, il y en a qui disent Igor et Grishka, qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux? Vous êtes toujours négatif et tout. Non, juste, les gars, sans le gardien, il y aurait 8-0. C'est pas parce qu'on gagne qu'il faut dire tout est beau, et c'est pas parce qu'on perd qu'il faut dire que tout est nul. Je pense que c'est important de pouvoir dire ce qui n'a pas été bon et de dire ce qui a été bon. Le rôle, même si un supporter normalement n'est jamais forcément objectif, c'est important d'être dans la critique aussi, qu'elle soit positive ou négative. En France, c'est pas forcément la norme, mais par exemple en Italie, c'est une des dictons des supporters de Naples, c'est qu'un supporter qui ne critique pas négativement son club n'est pas un vrai supporter. Donc voilà, ça dépend des cultures. Je pense que c'est important, même si tu as fait un bon match ou un très bon match, de mettre aussi en avant ce qui peut être négatif, parce que là, on nous prend pour des gros rabat-joie ou je ne sais quoi. Ou par exemple, moi, j'étais un gros fan de Javier Pastore. Mais un des plus grands fans, quand je le critiquais à une époque, on m'avait dit t'es un anti-Pastore. Ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir dire quand les joueurs que tu aimes ne sont pas bons ou quand une équipe, même si elle joue bien, les côtés négatifs. C'est juste ça, parce que souvent on voit ça dans des lives en commentaire.
Mais surtout les gars,
juste un truc, je tiens juste à dire pour toutes les personnes qui regardent, c'était la minute de Papy Basto. Voilà, maintenant je te repasse la main.
Non, mais juste après, on va revenir sur le football. Mais il faut savoir une chose, c'est que là, déjà, on est 4 dans le live et on est 502 dans le live en tout, en auditeur. Donc forcément, allez, il y a 505 avis différents. On n'aura jamais le même avis. Alors, on peut avoir des similitudes. Par exemple, oui, j'ai bien aimé Neymar, etc. Mais on aura toujours une vision d'un match différent. C'est normal, on est des êtres humains. Alors, par exemple, Igor a trouvé le match de Mukele très intéressant. Je l'ai trouvé intéressant. J'ai juste trouvé le fait qu'il redescendait très… Enfin, pas qu'il redescendait, mais lorsqu'il redescendait, il mettait plus de temps qu'à l'accoutumée. C'est juste ça que j'ai trouvé un flop. Et pourtant, lui, il a trouvé très bien. Bah, c'est comme ça. C'est un avis différent et c'est comme ça, il faut l'accepter.
Je peux lancer un débat tactique?
Vas-y, je t'écoute.
Qu'est-ce que vous pensez du fait que Ramos est axe droit et Marquinhos libéro? Est-ce que ça vous gêne? Parce que vous inverserez pas la chose. Moi, j'ai l'impression que le fait depuis que Marquinhos a été 6, on a l'impression que justement, du coup, ça va être un très bon libéro. Alors pour moi, il serait beaucoup plus intéressant en axe droit pour aller chasser haut, alors que là, il a plus de mal justement à gérer et la hauteur et la profondeur.
Bah, moi, j'en avais parlé avec Barry et Tonton une fois en live, ouais. Et je leur avais dit que Marquinhos, ancien latéral droit qui a encore les jambes de feu, je le verrais mieux axe droit plutôt que Ramos qui a beaucoup de mal. Et Barry, il était pas d'accord, il m'avait sorti une phrase, ouais, ça c'est sur FIFA 17 qu'on faisait ça, je crois. Mais pour moi, Ramos dans l'axe, il serait plus à l'aise pour moi, mais après,
Marquinhos, Ramos, c'est vrai que Marquinhos, quand il a été bon, quand il a pu jouer en latéral droit quelques matchs, et surtout en milieu en 6, c'est parce qu'il va chasser haut. Alors que là, justement, tu ne peux plus le voir chasser haut puisqu'il est derrière. En tant qu'hydro,
t'as bien sûr.
Timide, tu vois.
À l'AS Roma, Marquinhos jouait arrière droit. Pour ceux qui ne savent pas, quand on l'a recruté, il jouait plus arrière droit que défenseur central à l'AS Roma.
C'est contre Monaco, il me semble que Ramos en fin de match est recentré. Et au-delà de Marquinhos qui serait meilleur sur l'aile, c'est surtout un Ramos qui a vraiment du mal sur l'aile. Pour l'instant, il s'en sort par sa roublardise, mais avec des attaquants plus rapides, ça sera très compliqué. Et à côté de ça, on parle d'un joueur qui a une intelligence tactique phénoménale, qui a une expérience phénoménale, qui connaît les situations en veux-tu, en voilà. Et je pense qu'il aura plus de facilité à s'adapter aux exigences tactiques du poste de central que
même avec ballon. Au-delà
je ne suis pas d'accord avec vous, moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous.
Je vais juste finir.
Vas-y, finis.
Après, tu vas contrôler le débat. Ramos, qu'on a vu en position axiale dans une défense à 3 linéaires quand il a pu jouer, et contre Monaco, sa seule transversale qu'il fait, c'est quand justement il repasse axial. Ramos, quand il fait ce jeu long dont on sait où il peut faire justement ce côté aussi quarterback, bam, 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 il le fait pas en axe droit. Quand il est repositionné, libéraux, il le fait.
Marquis, qui a les capacités de le faire, bah, le fait pas. Quand il est central, il le fait pas. Donc autant utiliser justement sa vitesse. Mais maintenant, on va
descendre. Barry, contre-argument.
Bah, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que non. Déjà, la première chose, il y a un truc qui est simple. Les jambes. Depuis tout à l'heure, vous nous répétez que Ramos est pris dans son dos. Par un déficit de vitesse, par un déficit par rapport à son âge. Et maintenant, vous me dites que vous voulez qu'il soit libéraux. Mais c'est pas possible. Les gars, il faudra qu'il couvre derrière. Et donc, forcément, il faut quelqu'un qui est assez rapide. Et en plus, là, pour le coup, si vous me dites que Marquinhos a fait un mauvais match aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas fait le même match. Marquinhos, c'est un. On parle d'un débat tactique par rapport au match d'aujourd'hui. Je trouve que Marquinhos, au contraire, il commence à bien assimiler ce rôle de libéraux, de ce 6 un peu hybride, bah, notamment en seconde période où je l'ai vu lorsque Verratti sort. Bah, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le ballon, il le remonte à un box-to-box. J'étais un peu choqué, j'ai dit « Waouh, qu'est-ce qu'il fait ?» Bon, après, il rate sa passe, hein. Il fait une passe un peu dégueulasse, mais tu vois, des choses un peu intéressantes. Et puis surtout… par rapport au poste de libéraux, c'est-à-dire en phase offensive, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait une sorte d'alternance où les trois sortaient. C'est-à-dire que lorsque Marquinhos sortait, bah, les deux restaient derrière. Lorsque c'était Danilo qui sortait, bah, les deux restaient derrière. Et ainsi de suite. Ils faisaient j'ai vu ma porte s'ouvrir tout seul. Et du coup, oui, ils faisaient une sorte d'alternance dans ce secteur déjà, qui était assez intéressante. Non, je pense que le poste de libéraux, il faut que ce soit Marquinhos. On a déjà commencé une préparation physique avec ça. C'est un poste qui est compliqué à assimiler, qui demande pas mal de choses, contrairement au poste excentré où c'est assez ressemblant avec le poste de défense à deux, mais il y a des choses qui vont différer, des choses qui vont s'ajouter, alors que là, libéraux, c'est complètement un nouveau poste pour lui, malgré qu'il ait déjà joué 6. Non, je pense que Marquinhos, en termes de jambes, en termes de d'anticipation, en termes de course, en termes de volume de jeu, en termes de cardio et en termes de projection en avant, je pense que c'est parfait que Marquinhos soit en libéraux.
Déjà dans les défenses à 3, c'est rarement le libéro qui fait les grosses projections en avant. Le libéro a beaucoup plus un rôle de quarterback et un rôle de compensation par rapport au mouvement des deux autres, et du coup, bien plus que la vitesse pour le libéro, ce qui est important, c'est l'intelligence tactique, la précision tactique, l'anticipation. Par exemple, un mec qui est bon en libéro, et on l'a vu à de nombreuses reprises avoir ce rôle là, c'est Danilo. Et Danilo, il n'est pas caractérisé par sa vitesse. Et il a cette intelligence-là. Et l'autre importance du libéro, c'est sa capacité de relance. Et justement, ça va plus être ceux qui vont être le côté, ou un en tout cas des deux, comme par exemple Koundé le fait très bien, comme il y a plein d'autres exemples, qui vont apporter par leur projection. Mais le libéro, ça va plus être par les transversales. Et moi, il y a un truc qui me tue là-dessus, c'est que Marquinhos, il y a 3 ans, était, je crois, sur la saison, il y a 3 ans ou 4 ans, ça je sais plus, il faudrait aller regarder ans, les, voilà. Faudrait, voilà,
c'est 3 ans. United avec lui,
voilà. Aussi, mais cette année-là, il est le meilleur, il est le joueur en Europe qui tente le plus de passes longues, de transversales longues, et celui qui a le meilleur taux de succès dans les passes longues.
Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que je suis d'accord avec toi sur le poste de libéraux sur le 3-5-2 va te demander. Par contre, sur ce que le PSG a mis en place depuis quelques matchs, c'est justement en fait il faut une sorte d'alternance, c'est-à-dire des fois c'est Marquinhos qui va sortir et donc forcément les autres vont rester derrière, ou c'est Verratti qui va s'intercaler à sa position. Des fois ça va être Ramos qui va sortir et donc Marquinhos va se décaler, Verratti va descendre un peu plus bas, et ainsi de suite. Il faut une sorte d'alternance comme ça. Et je ne sais pas si tu as remarqué, lorsque Verratti est sur le terrain, Vitinha est sur le terrain, avant que Verratti sorte du terrain, bah, si tu regardes bien, lorsque les centraux sortent de cette défense-là, c'est justement avant que les pistons se projettent. C'est-à-dire que les pistons n'ont pas encore dépassé leur camp. C'est-à-dire que ils sont pas encore projetés sur l'aile. Là, le central peut sortir. Une fois que les pistons sont sortis, bah, numériquement, si derrière tu perds le ballon et que le central est sorti, tu auras des problèmes. Donc le central reste, que ce soit le libéro ou les excentrés. Et c'est ça que je te dis, l'alternance était assez intéressante. Par contre, oui, dans un système basique du 3-5-2, comme l'Inter a pu mettre en place, comme la géométrie dont on veut compter, oui, le libéro, c'est pas ce qu'on va lui demander de faire.
Mais il y a aussi quand même un manque de, que ce soit Marquinhos ou toute la défense, il y a un manque de prise d'initiative à la relance depuis le début d'année, qui est assez inquiétant. Avec ballon, alors t'as Kimpembe qui peut prendre le ballon et qui fait une balle au pied, mais dans la relance, juste dans la passe, alors oui, c'est travaillé, t'as Verratti qui vient s'intercaler.
Ramos le fait quand même.
Mais il le fait beaucoup plus quand il est central que quand il est sur un côté, justement. Il l'a beaucoup plus. Ouais. Il le fait vachement dans les 20 dernières minutes quand il est recentré.
Voilà, moi vous savez, c'est quoi la vraie inconnue, Ramos ? Excuse-moi de te couper, mais la vraie inconnue, Ramos, après je te laisse la parole. La vraie inconnue, c'est que déjà, tu ne sais pas combien de matchs il va faire. Et comme tu l'as répété plusieurs fois, j'en ai marre de t'appeler Grishka Adrias. On va t'appeler Adrias, c'est bon. Tu vois, comme tu l'as répété plusieurs fois, Adrias, tu vois, la défense à 3, déjà, c'est de nouveaux postes, notamment le poste de libéro. Tu as besoin d'un joueur qui va être installé. Si tu commences à installer Ramos et que tu ne sais pas dans quel état physique il va être, tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien de matchs il va te taper. Tu ne sais pas s'il va faire l'ensemble de la saison ou non. Bah, tu vas devoir remettre Marquinhos à ce moment-là. Et Marquinhos n'aura plus les automatismes, étant donné qu'il n'aura pas travaillé ce poste de libéro. Vaut mieux installer un joueur dont tu sais que la fiabilité physique lui permettra de continuer tout au long de la saison, plutôt qu'installer un joueur que tu dis, bah, il a peut-être mieux les compétences, et peut-être qu'au mois de décembre, il va se péter le mollet et tu auras des problèmes. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est logique.
Je pense que c'est pour ça que Galtier continue comme ça. Hein. Je pense que c'est parce qu'il n'est pas à cause de confiance sur Sergio Ramos. Sinon, je pense qu'il aurait testé.
Après, moi, j'avais un autre débat. J'avais un autre débat à proposer qui était plus sur le match en lui-même. Et Galtier avait annoncé pas mal de changements à venir. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la composition par rapport à ça ? On annonçait pas loin de 4-5 changements et le fait qu'il n'y ait que deux changements, dont un qui était dû à une blessure. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
J'aurais aimé Kitiquet titulaire, personnellement, moi. J'ai beaucoup aimé sa rentrée. C'est un joueur que j'aime bien. Il joue très peu en ce début de saison, mais il aura son temps, notamment face au FC Nantes ce week-end. D'ailleurs, je serai au match, donc je ne serai pas en live avec vous, les gars. Je serai à la Beaujoire. Mais Kitiquet, pour moi, il a une vraie carte à jouer dans cette équipe. J'espère que Neymar ne va pas se blesser, qu'il va faire une belle saison. Mais pour moi, c'est le quatrième homme de cette attaque, pardon. Et j'aurais bien aimé le voir titulaire, j'espère au moins le week-end prochain. Et je pense que ça aurait été un bon soir pour lui. Hein.
Mais un début joueur, en fait, la question portait plus sur le fait qu'on avait annoncé 4-5 changements, et y compris le staff. Hein, je me souviens
Galtier
plus.
C'est
Galtier.
Mais le truc, c'est que t'as des sessions de changement, tu vois. T'as les sessions de changement qui sont limitées, et donc je crois que c'est 3 sessions de changement.
Non, Paris.
C'est pas de bêtises, non ?
J'ai
pas compris ce que tu veux dire.
On parle de la compo type, tu vois, on avait annoncé plus de
rotation.
Il y a juste.
Okay. T'as Bernat et Danilo et Vitinha.
Danilo et Mukiele.
On nous avait annoncé Ramos capitaine, on avait annoncé Marquinhos.
Et Vitinha est revenu de suspension aussi, donc ça compte comme changement par rapport au dernier match.
Pour relancer le débat, est-ce que pour vous, contre Nantes, il va falloir faire une nouvelle rotation peut-être avec Bernat et Kitiquet titulaire, ou alors vous pensez que s'il y a eu seulement deux changements ce soir, c'est que Galtier veut travailler son style avant la Juve et que la rotation arrivera après. Qu'est-ce que vous
pensez? Le truc,
promettre un 11 plutôt type.
Pour moi, il y aura rotation ce week-end pour moi.
Mais je peux pour moi, vaut mieux faire rotation parce que t'es en début de saison. Voilà, t'as 4 jours de la Juventus, t'es en début de saison, donc vaut mieux faire une rotation plutôt que de lancer le truc. Après, oui, là, j'ai mieux compris ta question, excuse-moi tout à l'heure, j'étais un peu à l'ouest. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je pense que, on l'a vu, tu vois, Nuno Mendes qui était, je vais pas dire carbo, tu vois, mais il était fatigué, ça s'est vu, tu vois, même au niveau des courses.
Même Verratti, c'est inhabituel.
J'en ai même vu sur les réseaux dire que Nuno Mendes était flemmard. Non, je pense qu'il n'avait pas forcément dû jouer aujourd'hui. Donc, je pense qu'il aurait peut-être dû faire rentrer, il aurait peut-être dû faire jouer Bernat, qui en plus, lorsqu'il est rentré, nous a prouvé, même au-delà de son but, hein, dans les courses, dans son volume, alors qu'il a joué que 10 minutes, on a senti que le mec était en forme et qu'il avait faim, tout simplement. Donc, oui, je pense qu'il aurait peut-être dû faire plus tourner. Moi, j'aurais peut-être tenté Non. En fait, j'aurais pas tenté ça parce que non, je pense qu'il a laissé Ramos sur le terrain et Marquinhos parce que Ramos est dans un nouveau poste à droite. Je pense qu'il a dû avoir l'info que Skriniar, ça allait être très compliqué, tu vois. Et donc forcément que Ramos allait jouer encore plus longtemps à droite. Donc, je pense qu'il veut l'installer durablement à droite et donc lui donner des marques un peu plus ouvertes. Donc, c'est pour ça que je pense que Marquinhos était sur le terrain. Sinon, je pense qu'il aurait mis Danilo il aurait mis Danilo au poste
En
de
défense.
numéro. Il aurait mis Ramos à gauche, Mukiele à droite, et peut-être que Hakimi aurait joué, tu vois. Je pense qu'il aurait fait un truc comme ça. D'ailleurs, à la fin du match, j'ai remarqué que
Intéressant.
Mukiele a joué 6. Mukiele a joué 6. Je sais pas si vous avez remarqué. Parce que
Non.
Hakimi est rentré en piston, et donc Mukiele s'est décalé en tant que 6, vu qu'il a fait sortir Messi,
Mais
tu
pas vu.
vois. Et donc voilà. Et donc par rapport à Ekitike, juste pour répondre un peu sur Ekitike, moi j'aurais aimé le voir titulaire, mais les gars, il y a une inconnue sur de quoi, Barry quoi? Skriniar a signé? Quoi? Qu'est-ce que tu
Tout
me racontes?
Skriniar a signé, j'ai vu Madar dire on a fait signer
Depuis
le
tout à l'heure, je vois Skriniar a
la
signé, mais
pénalité de match
non.
Madar.
Mais non, Skriniar il a pas signé, qu'est-ce que vous me racontez là?
Non, je
Quelle
pense que
bêtise.
c'est tonton qui est
Ouais,
dans
il me troll, il me troll. Il troll, il veut niquer mon live. Bref.
Enfoiré.
Je disais
Il y en
quoi?
a un
Non.
troisième qui vient. Hein.
Non, juste sur le cas, bon, on verra de toute façon après si Skriniar a signé. Je serais très content s'il a signé. Mais sur le cas Ekitike, juste pour faire en rapide, faut savoir que lorsque Ekitike est arrivé au Paris Saint-Germain, il était en phase de reprise pour une blessure longue de 6 mois. Donc déjà, il n'a pas fait une préparation optimale. Lorsqu'il est arrivé, le PSG avait déjà commencé une préparation au Japon. Lui, il est encore en phase de reprise durant cette préparation. Ensuite, il est revenu. Lorsque le premier match, je crois qu'il joue 15 minutes, il était toujours en phase de reprise. Le deuxième match, il fait rentrer 2 minutes avant ou 3 minutes avant la fin du match. Donc, il ne joue pas. Et là, il lui donne 35 minutes. Donc, je pense que, tu vois, il monte progressivement dans sa reprise. Et donc, ça allait être compliqué pour lui d'être titulaire. Par contre, je trouve son entrée très intéressante parce que lorsqu'il rentre, je ne sais pas si vous avez remarqué, défensivement,
Ah, il a
il
la
essaie
dalle
toujours de couper les lignes de
défensivement.
passe. Défensivement, il coupe les lignes de passe. Tu vois, il est au pressing. Offensivement, il donne des solutions. C'est-à-dire que il va redescendre très bas, mais la seconde d'après, il va se retrouver très haut. Il va se projeter très vite. Il est très intelligent, ce petit, tactiquement. Et ça me choque même d'ailleurs, pour son âge, d'avoir un attaquant qui est aussi bon tactiquement, alors qu'il dézone pas mal. Tu vois, c'est très intéressant. Donc je pense que son profil, il va être.
Juste pour me dire un priori, si je lis chat, c'est RMC dans l'after qui a annoncé que Skriniar s'était signé, si je comprends bien.
Ouais, vas-y, vas-y.
On l'annonce plus ou moins. Alors, pour enchaîner, pour répondre, alors d'abord vite fait sur Ekitike, moi j'ai trouvé son entrée très intéressante. Il y a juste un gros défaut que j'ai remarqué, quelque chose qui m'a qui m'a qui
Ekitike, il descend pas? Attends, désolé, désolé, excuse-moi. Ekitike, il défend pas? Mais
Wow.
vous êtes. Les gars,
C'est tant qu'il défend pas,
excuse-moi, mais.
c'est pas exactement ça. C'est
Ouais,
qu'il a
voilà.
l'intelligence tactique de toujours avoir le bon placement pour empêcher les relances adverses.
Merci.
Et
Merci.
c'est pas quelque chose qui est visuel, c'est tu vas pas le voir en train de faire un tacle ou je sais pas. C'est juste dans sa manière de placer, il est tout le temps là en train de gêner la manière avec l'équipe adverse va essayer de se relancer. Et à ce titre-là, il est très intéressant et tu le vois d'ailleurs en train de faire énormément de courses, même dans les phases qui sont sans ballon, justement pour se placer, pour gêner au plus l'équipe adverse. Maintenant, là, moi, où il y a eu un petit truc, c'est qu'en fait, à chaque fois, il fait des passes et on remarque et il arrive vraiment à trouver des angles de passe intéressants. Mais une passe sur un partenaire, mais à chaque fois, il le fait sur un partenaire qui est couvert. C'est comme s'il voyait qu'à moitié, en fait. C'est-à-dire qu'il voit pour partie ce qu'il y a autour de lui, mais il n'a pas encore analysé toute la situation. Alors après, c'est un très jeune joueur, il a encore des bonnes marges de progression, mais en fait, il fait des belles passes, mais c'est pas la bonne passe. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois dans le match. Maintenant, pour en revenir à la question, parce que moi, ça m'intéressait, parce que moi, j'en arrive à me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu justement un backup du management qui s'est dit, bon, qui était parti? Parce que moi, je trouve que justement, c'est beaucoup plus cohérent de faire changer dans le match qui précède le match de Ligue des Champions et le match de Ligue des Champions qui est 4 jours avant, de l'utiliser comme répétition avec tous tes titulaires pour que les mecs soient plus en rythme, etc., etc., etc. Et quand tu lisais les déclarations, tu avais l'impression que c'est ce qui allait être mis en place. Et c'est comme s'ils ont fait un petit backup en se disant, ouais, non, l'équipe, elle a encore besoin de développer trop d'automatisme. Donc, en fait, on change rien. Et du coup, j'en arrive à me poser la question. À Nantes, on devrait voir aucune différence. Et les différences, on devrait les voir seulement après le match de Ligue des Champions. Et je me pose la question, justement, par rapport à la différence entre la déclaration et ce qui s'est vu sur le terrain. Et c'est pour ça que je voulais en parler, Juste
en fait.
Madar, alias mon alter ego Igor, qui est un ami, Darius et moi,
Qui a toujours
tu
pas
sors.
donné.
C'est bon, il arrête pas trop là.
Non,
Au
mais.
poste 3 avec Vincent Collet comme coach, il sera excellent au JO et
Mais
Kitchi.
juste, en fait, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, je vois, depuis tout à l'heure, comment dire, je trouve que dans les commentaires, je vois des oui, il défend pas, il défend pas. Faut savoir qu'il y a deux manières de défendre. Il y a le pressing direct et il y a le pressing lent. Il y a le pressing qui va être basé sur un pressing où clairement tu vas être en tête chercheuse comme un Verratti peut le faire. Et tu vois le pressing où justement ça va être un pressing de placement. Chose que Fabien Ruiz qui arrive au Paris Saint-Germain fait d'ailleurs très très bien pour intercepter les ballons. Et c'est justement ça qu'a fait Ekitike. Je vous invite à aller revoir son entrée. Elle est pas longue, 35 minutes. Donc en vrai, je pense qu'on va avoir des vidéos. Je vous invite à voir comment il coupe la relation entre le porteur du ballon et le 6 adverse, ou alors la défense adverse, ou alors le joueur qui est le plus proche de lui. Vous allez voir que Ekitike, dans son placement défensif, hein, attention, je ne parle pas de son placement défensif, dans son placement défensif, il annule toute possibilité au porteur du ballon de faire progresser le ballon et donc trouver un partenaire. Malheureusement, il est le seul à le faire. C'est-à-dire qu'il est seul à faire ce placement-là. Et donc, malheureusement, le porteur du ballon arrive à trouver un décalage, etc. Mais Ekitike l'a très bien fait. Et je l'avais vu déjà à Reims. À Reims, je trouvais qu'il faisait ça de manière très intelligente. Et d'ailleurs, quand il est rentré, je crois que c'est le premier match où il est rentré à 15-20 minutes de la fin, si je ne dis pas de bêtises. Là aussi, il faisait ça aussi de manière très intelligente. Faites attention, défensivement, ce n'est pas le mec qui va presser comme certains joueurs vont le faire. Même s'il le fait d'ailleurs à Reims, il le faisait pas mal. Mais dans son placement, vous allez voir qu'il est très intéressant.
Tu as raison, Paris, mais quand il rentre, premier ballon où il rentre, il y a une attaque toulousaine. Et là, il fait un vrai pressing fort où il va gêner une frappe, je crois que c'est une frappe de 25-30 mètres. Et il fait une vraie accélération de 10 mètres juste pour aller mettre le pied pour essayer de gêner l'attaquant. Et
Mais ça, le faisait à Reims.
ceux qui disent qu'il est avare d'efforts, c'est, je ne sais pas comment vous regardez le match, vous le
À
regardez avec
Reims,
un
il le
seul
fait
œil.
beaucoup.
Mais
Par rapport
et
à
oui,
j'allais
c'est un joueur généreux dans l'effort.
Ah
Comme
oui,
dit Igor.
vous allez voir.
Juste pour compléter, il a un volume de course sans ballon qui est énorme.
Ah oui, c'est,
Ouais.
je suis d'accord avec vous. Après, oui, mais non, mais les gars, en même temps, vous dites à Reims, Kylian Mbappé avant était à Monaco. C'est logique. À un moment, faut bien que les joueurs y viennent. Alors après, je vois Marteau, c'est ça, Marteau. Hein. Marteau, je pense qu'il est un ami de Igor, si j'ai bien compris. Tu trouves qu'il n'a pas le niveau? Oui, à l'instant T, je pense qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain. C'est une réalité. Mais c'est un jeune joueur, il a 18 ans. Mais c'est lui le
Ah,
temps.
mais être titulaire en match de
Voilà.
rotation, je pense qu'il a le niveau. Franchement, face à Toulouse ou
Voilà.
face à Nantes, il peut faire largement l'affaire, je pense. Et
Ouais.
il a une petite action, en plus quand il rentre au bout de 20 minutes, d'ailleurs, il joue que 25 minutes, tu dis 35 barils, je crois que c'est que 25. Et belle remise d'Mbappé, je crois un petit peu chanceuse, faudrait la revoir. Mais il a failli marquer, pour ceux qui n'ont pas vu le match, frappe croisée du pied gauche et encore un bel arrêt de Maxime Dupé.
Il y a plusieurs sujets qui m'intéressent, notamment une question que vient de nous poser. Vitinha est-il déjà indispensable? Et moi,
Oui.
le deuxième sujet que je voulais amorcer, après, ça dépendra de vous. Est-ce que vous préférez qu'on parle de la défense ou est-ce que vous préférez qu'on parle du trio offensif? Je pense que la défense, on a fait quand même pas mal. On n'a pas beaucoup parlé du trio offensif aujourd'hui. C'est comme vous voulez, vous préférez quoi?
Bon, le trio offensif, je pense qu'on a déjà fait le tour pour la défense.
La défense, ok. Donc on part sur le trio offensif?
Ouais.
Vous avez pensé quoi du trio offensif Igor et Grishka? Et me tabasse,
Ouais.
arrêtez, s'il vous plaît.
À la fois, c'est des killers, ils sont trop forts, et à la fois, ils sont tiltants. L'entonnoir de l'axe. Mais le truc, en fait, c'est que tu peux jamais les critiquer parce que tu as Messi où tu as l'impression qu'il est un peu moins bien que d'autres matchs et le mec qui te claque deux passes décisives d'anthologie. Tu as un Neymar qui commence mal et puis qui, derrière, se rend utile dans le jeu. Voilà. Et puis, tu as un Mbappé qui, oui, pas a été décisif, mais un poteau, une passe décisive, enfin, pas une passe décisive, une avant-dernière passe, une key passe, etc. C'est des mecs qui sont incritiquables, mais. Là, ils ont été tiltants, ils écartaient pas assez sur les ailes, ils étaient dans certains travers qui sont agaçants, mais c'est quasi impossible à les critiquer parce qu'à chaque fois ils sont décisifs, à chaque fois, même quand ils sont décevants, ils sont bons et un peu agaçants, mais qu'est-ce que tu veux leur dire?
En fait, qu'est-ce que tu veux analyser ce trio? De toute façon, il jouera tout le temps. Donc, tu sais, c'est pas comme si tu allais analyser, il y a de la concurrence, il y a machin, il y a machin. Ce trio, on sait qu'il sera là avec leur immense qualité et leurs défauts qu'ils ont aussi. Ils ont fait globalement leur match, même si on en a parlé tout à l'heure. Mbappé a été tiltant, mais comme l'a dit Drea, c'est un but, c'est un poteau, c'est une avant-dernière passe en talonnade sur le premier but. Donc voilà, on sait très bien qui ils sont, on sait très bien qui ils seront. Si je pouvais dire une petite chose, c'est sur la gestion des remplaçants que doit faire le staff Galtier et Sacramento, notamment sur la gestion des remplaçants, qui sortir en premier, etc. Ça, on avait vu Messi sortir en premier contre Monaco, et donc là, c'est
Il
Neymar
fait
qui
l'alternance.
et
Il fait
Mbappé
l'alternance.
tous les deux premiers matchs, et Mbappé qui finit match, etc., etc. Donc il faut qu'ils, oui, on connaît leurs égos, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est ce qui font que ce soit des grands joueurs.
Mais voilà, c'est trouver cet équilibre dans ces sorties. Qui va sortir en premier? C'est pas facile à gérer. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été plutôt bien fait. Messi est sorti le premier contre Monaco. Aujourd'hui, c'était Neymar. Et puis, pour pas vexer Neymar, on sort quand même Messi, etc., etc., etc. Mais ça, faudra faire gaffe. C'est la bonne balance.
C'est surtout en Ligue des Champions qu'on va voir qui sort en premier. Parce que là, ça va, ils font l'alternance. Tu seras face à la Juventus.
Face à Manchester City. Hey, Marteau, ta vanne, elle est bidon.
Alors, j'avais vu un juste intéressant.
Désolé de critiquer Hugo, elle est bidon, sa vanne, regarde. Elle est bidon. Du coup, BR, t'as pensé quoi du trio?
Ouais, je disais, ce sera en Ligue des Champions qu'on verra Galtier qui sortira en premier. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas se mettre de règles, il faut juste sortir le moins bon du soir. Ce sera pas quelque chose de facile, mais à la 70e, tu fais rentrer Hugo et Kitike. Tu te dis pas, bon, la semaine dernière contre le FC Nantes, j'ai sorti Mbappé ou j'ai sorti Messi. Tu dis le moins bon ce soir, il doit sortir. Mais moi, ce que j'ai pas trop aimé, un petit peu comme Igor, c'est qu'on est trop passé par l'axe. Je crois qu'à la mi-temps, j'avais vu la stat, on était à 45% d'attaque dans l'axe. Ça, c'était chiant. Mais ça s'explique aussi, ça s'explique aussi facilement par le fait que Nuno Mendes était moins bon aujourd'hui, donc moins de courses, moins disponible. Et à droite, Mukiele, qui avait un peu plus de mal à se placer, qui, comme je l'ai dit au début, était un peu trop haut. Donc, entre le fait que Messi et Neymar, tu sens qu'ils veulent jouer à la baballe tous les deux, ça nous fait tilter de temps en temps, plus le fait que les pistons aujourd'hui n'étaient pas au top niveau, ça explique aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de jeux dans l'axe. Mais comme tu l'as dit, je crois, au début, Barry, il y a trop de combinaisons. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on redouble trop les passes. 1, 2, 3, hop, on doit aller chercher ailleurs. Mais il y a surtout avec Messi, il adore faire ça, c'est prendre un joueur en appui, qu'on lui remette, et là, il essaye de mettre un coup de rein. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a Messi qui a la balle, il y a toujours Verratti, Vitinha ou Neymar qui essayent de leur redonner. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Pour moi, Messi, il lâche la balle. Ce n'est pas parce que c'est Messi qu'on doit lui remettre. Il faudrait plus aller chercher sur les côtés. Donc, après, juste pour parler d'Mbappé, vous avez parlé de son poteau, mais il a aussi fait une barre. Peut-être qu'il était hors-jeu, je ne sais plus, mais il aurait pu mettre 2-3 buts ce soir. Mais Mbappé, techniquement, il était en dessous ce soir comme face à Monaco.
Et ben, c'est pour ça que j'ai lancé ce sujet-là, parce que moi, l'une des choses qui m'a dérangé aujourd'hui, c'est que le jeu était beaucoup trop axial, et ben, comme vous l'avez dit, et on trouvait très peu les ailes. Alors oui, Nuno Mendes, comme on l'a dit, était un peu en méforme, mais même au-delà de ça, alors oui, il n'était pas en forme, etc. Mukiele prend le couloir, personne ne le trouve. À des moments, Nuno Mendes trouve le couloir, et personne ne le trouve. Je me dis, est-ce que Nuno Mendes a été, enfin, pas mauvais, je ne vais pas dire mauvais parce que c'est un grand mot, mais est-ce qu'a été en dessous de ce qu'il fait habituellement parce que le mec était physiquement en dessous, ou est-ce que parce qu'en fait, c'est parce qu'on ne l'a pas vu assez, tout simplement. On n'a pas cherché à le trouver. Parce que à certains moments, lorsqu'il avait le ballon, tu retrouvais le Nuno Mendes qu'on aime. Tu vois, le Nuno Mendes qui est explosif, le Nuno Mendes qui fait des différences, balle au pied, etc. Et là, j'avais l'impression qu'on ne le retrouvait pas et qu'en plus, on ne le cherchait pas. C'est-à-dire que le trio offensif, comme je vous l'ai dit au tout début avec Kylian Mbappé, à la rigueur, tu as rendu.
Juste un truc. Ok, on relaie pas tout simplement parce que ça a été sorti que sur l'after RMC, et c'est sur la signature de Skriniar et c'est sorti nulle part ailleurs en fait, pas sur l'équipe.
Oui, c'est pour ça, je viens de vérifier les gars, c'est pour ça que je suis sur mon téléphone depuis tout
à l'heure. C'est pour ça qu'on n'en prend pas parce que pour l'instant, il n'y a qu'une seule source et il y en a besoin d'une autre. Excuse-moi, Barry. Voilà.
La seule chose qu'on a, c'est la déclaration de Galtier d'après-match qui dit c'est possible car le mercato est ouvert. Donc en vrai, à voir. Mais là, on ne sait rien encore. Et donc je disais, le jeu est trop axial. Donc tu vois, quand tu as un duo qui joue ensemble, etc., même si j'aime pas trop ces histoires de toujours essayer de se chercher, etc., notamment une action encore où Kylian Mbappé est excentré côté droit et il est seul. Et Messi l'a vu, mais préfère passer le ballon à Neymar qui est côté gauche. Neymar te fait un tir un peu sur petit filet. Voilà, c'est dommage, tu vois. Il y a des facilités avec eux, mais des fois, ces facilités-là, ils les utilisent à mauvais escient, je dirais. Et donc, oui, ce jeu trop axial, tu as trois joueurs qui sont de très bons joueurs balle au pied, mais tu en as deux qui sont plus au-dessus qu'un autre. On va pas se mentir, Neymar et Messi sont meilleurs balle au pied que Kylian Mbappé, il faut se dire les choses. Et pourtant, tu te rends compte que Kylian Mbappé a énormément envie de dézonner et donc il laisse toujours cet axe central devant les deux centraux vide. Et donc, les deux centraux, si vous regardez bien, il y a plein de phases de jeu où les mecs, ils font juste se déplacer. Ils se déplacent. Et il n'y a personne qui leur met du danger. À part quand les mecs décident d'accélérer lorsque Neymar se projette dans la surface et Mbappé se projette dans la surface, ils resserrent et puis c'est tout. Il n'y a personne qui leur met une pression constante parce que Kylian Mbappé dézone beaucoup. C'est ça qui me dérange et surtout ce jeu axial. en sachant que tu passes en 3-5-2 parce que tu te dis, bah, tu as des fusées sur les côtés et tu as envie de les trouver, tu as envie d'en faire une force, je trouve que c'est quand même bête de mettre en place un système pareil et de ne pas trouver ces pistons. Du coup, on est 489 sur le live, les gars. J'espère qu'on a atteint les 250. Si on les a pas atteints, s'il vous plaît, allez liker la vidéo. Likez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je pense qu'on a dépassé l'heure de live. Si quelqu'un a quelque chose à
ajouter, ouais, 1h05.
Non.
Il y avait une dernière chose. De toute façon, je pense qu'il y aura encore un débrief de ce match-là vendredi. Donc voilà. Vendredi, d'ailleurs, vendredi, on fera à 13h, on fera le bilan du mercato du Paris Saint-Germain. Donc soyez présents. Je ne sais pas encore quelle équipe, mais bon, je pense qu'il y aura Brias. Je pense que je serai là. Je pense que je serai là et je pense qu'il y a un retour de tonton à MC. Soyez indulgents avec moi parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai fait les MC, donc soyez indulgents. Merci à vous les gars d'avoir été là, ça fait plaisir. On a 188, donc s'il vous plaît, 250. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris.
Ciao tout le monde.
C'est Paris.